en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Je vous remercie bien vivement, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier. Je vous suis très reconnaissant de ces invitations régulières dans l'enceinte de votre Académie. Je pense que le Président me pardonnera le caractère un petit peu philosophique de l'exposé de ce jour. J'espère qu'il n'ennuiera pas excessivement les autres membres de l'Académie. Vous m'avez posé un sujet impossible à traiter. La tradition des sciences morales et politiques dans la culture anglo-saxonne, il est impossible à traiter car, évidemment, il n'existe pas de culture anglo-saxonne des sciences morales et politiques pour un certain nombre de raisons que je vais indiquer. Premièrement, il n'existe pas d'homogénéité entre les différentes sciences comprises dans cette notion de sciences morales et politiques, économie, sociologie, anthropologie, histoire, géographie, sciences juridiques, etc. Et en particulier, sur certains sujets, les protagonistes de ces disciplines, hélas, tiennent des propos qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. C'est quelquefois le cas, par exemple, entre l'économie et la sociologie. Il y a une question de savoir si la psychologie et la philosophie font partie de sciences morales et politiques. À cet égard, les deux positions se trouvent dans la tradition anglo-saxonne, puisque l'une réduira la psychologie à une science de la nature et non pas une science morale, tandis qu'au contraire, on pourra considérer que la psychologie relève de la science morale dans certaines autres traditions. Et la philosophie est alternativement ou concurremment considérée comme une science ou une procédure réflexive sur la connaissance scientifique ou comme un type de savoir irréductible à une connaissance scientifique. C'est le cas, par exemple, de la tradition Peter Winch. Il n'existe pas non plus d'homogénéité à l'intérieur de chacune des sciences. En particulier, par exemple, pour l'anthropologie, vous avez une tendance à l'anthropologie cognitiviste, naturaliste, qui est aux antipodes de l'anthropologie culturaliste, qui est prépondérante dans le monde anglo-saxon. De manière encore plus significative, je dirais qu'il existe des positions communes au sein de cette tradition, avec des auteurs qui appartiennent à des pays non anglo-saxons. Et enfin, il existe un très grand nombre d'auteurs majeurs qui ont rédigé leurs contributions en anglais alors qu'ils n'étaient pas issus de pays anglo-saxons. Un certain nombre de cas célèbres, n'est-ce pas, parmi d'autres, Karl Hempel, Friedrich Hayek, Karl Popper, etc., venus en particulier du monde germanophone. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la norme, puisque désormais, pour avoir une chance d'être lu au-delà de nos frontières, il faut écrire en anglais ou dans quelque chose qui ressemble à de l'anglais. Et donc, c'est devenu désormais une sorte de culture mondiale, comme vous le savez, par l'effet vraisemblablement d'un mécanisme, puisque je consacrerai quelques mots à la notion de mécanisme tout à l'heure, un mécanisme qui a été théorisé par le sociologue Merton dans les années 30 sous le terme de « Matthew Effect », qui consiste à considérer qu'à partir d'un petit avantage comparatif d'un individu ou d'un groupe d'individus par rapport à un autre, il y a ensuite un avantage cumulatif qui fait que cet avantage relatif tend à générer des avantages supplémentaires. Et c'est ainsi que l'anglais, qui était une langue académique parmi d'autres, pour des raisons que je ne vais pas décrire et que tout le monde connaît, est devenu la langue académique centrale dans pratiquement toutes les disciplines des sciences humaines et sociales ou sciences morales et politiques, avec peut-être prochainement l'avènement du chinois ou du mandarin pour se substituer à cette langue. Il n'y a donc pas véritablement d'unité des sciences morales et politiques dans la tradition anglo-saxonne, si ce n'est peut-être aujourd'hui un certain professionnalisme du milieu académique particulièrement remarquable, peut-être un certain style, une tendance à éviter la rhétorique, à rechercher la précision, une orientation empirique, mais en réalité, il n'y a pas de consensus théorique profond sur les contenus. Ainsi, en économie, la tradition néoclassique, qui est d'ailleurs d'origine européenne et française même, a été confrontée historiquement au XXe siècle au keynésianisme, et finalement, les deux grands paradigmes se sont développés en terre anglo-saxonne. Il y a néanmoins, après ces propos rendant impossible le traitement du sujet que m'avait proposé, il y a néanmoins sans doute une idée centrale qui peut caractériser le développement des sciences morales et politiques en milieu anglo-saxon. Idée centrale qui, évidemment, a été contestée, mais qui est sans doute l'élément le plus saillant de cette tradition. C'est un effort pour précisément considérer que les sciences morales et politiques, ou plus tard les sciences sociales, moins la notion de sciences humaines, qui n'est pas directement en usage, sont des sciences. Sont des sciences, et qu'à ce titre, elles relèvent du discours scientifique ordinaire, même si son objet est spécifique. C'est le principe qui avait été énoncé d'emblée par David Hume dans le traité de la nature humaine de 1754, qui, en anglais, coined the term, n'est-ce pas, de science of man, et qui va, à partir de là, développer ce qu'on appellerait aujourd'hui un programme de recherche assez cohérent jusqu'à aujourd'hui. J'emprunterai donc davantage à David Hume qu'à Adam Ferguson ses principes de base, même si Adam Ferguson est l'auteur en 1792 des Principles of Moral and Political Science, qui permet d'anticiper la naissance de votre académie. Dans l'ouvrage de David Hume, il y a, pour définir cette notion de « science of man », il ne parle pas de science sociale, il parle en revanche de « moral science », deux idées de base, n'est-ce pas, c'est qu'il doit s'agir d'une science empirique informée par une connaissance expérimentale de la réalité humaine et sociale. Et il se réfère ainsi, c'est la deuxième idée, au modèle newtonien pour essayer d'avoir des résultats analogues à ceux qui sont obtenus dans le cadre des sciences de la nature. Comme vous le savez, David Hume introduit également, ou plutôt réintroduit, une notion qui était présente antérieurement en philosophie, la distinction entre le « is » et le « ought », la description de l'être et l'injonction au devoir être. Contrairement à une idée reçue, David Hume ne disait pas qu'il n'était pas possible d'avoir un discours normatif justifié rationnellement. Néanmoins, il pose le problème considérable et certainement constitutif de cette tradition anglo-saxonne du passage d'une description empirique à une analyse normative des normes, des valeurs, et donc la possibilité normative d'une science morale et politique. Hume résoudra sans doute ce problème par référence à l'idée d'émotions naturelles qui orientent vers le respect de certaines normes, mais je ne développerai pas ce point à propos de David Hume. On retrouvera à peu près le même programme chez John Stuart Mill, à peu près un siècle après, dans The Logic of the Moral Sciences, System of Logic. Et je précise toutefois que pour définir ce programme naturaliste, causaliste, scientifique de la réalité sociale, John Stuart Mill se réfère explicitement à Condorcet, qui écrivait donc en français, et qu'il juge être son modèle en la matière, ce qui montre qu'il ne s'agit en rien ici d'une tradition à proprement anglo-saxonne. Je dirais que dans le cadre de cette tradition, mais au-delà de cette tradition, les sciences morales et politiques ont été concernées par trois types d'opérations différentes. Ces trois types d'opérations sont constitutives de ce que peut être une science sociale ou une science morale et politique. Et du point de vue de la philosophie des sciences, ces trois sujets ont été abondamment développés et analysés dans le cadre de cette tradition en langue anglaise. La première opération est une opération de description des phénomènes sociaux et de données sur la réalité sociale. La deuxième opération est une opération d'explication à partir de ces données, de ces phénomènes sociaux, à partir du moment où ceux-ci sont considérés comme énigmatiques, ou de manière générale, d'ailleurs, même s'ils ne sont pas énigmatiques, comment peut-on expliquer un phénomène social ? Et donc, la troisième dimension est une dimension d'évaluation des phénomènes sociaux, de prise de position normative, la question étant de savoir s'il existe une base scientifique enracinée dans les sciences morales et politiques pour parvenir à une telle évaluation. Je vais me référer à un auteur allemand, mais de langue anglaise, lorsqu'il a précisé sa distinction, Karl Hempel, qui indique bien que dans sans doute l'article majeur au XXe siècle, qui a essayé de considérer que les sciences sociales fonctionnaient suivant le même principe que les sciences de la nature, une description répond à la question « what ?», tandis qu'une explication répond à la question « why » et répondre à la question « what » ne correspond pas à une réponse à la question « why ». Alors, il est vrai qu'il existe des critiques récurrentes quant à la distinction possible entre description et explication, avec essentiellement deux grands arguments qui se rejoignent d'ailleurs. Le premier est que pour parvenir à une description pertinente, on a besoin de critères, de normes, et que donc il n'y a pas de description pure qui soit indifférente à un engagement normatif. C'est un argument qui a été développé par Wittgenstein en anglais et qui a été développé ensuite par la tradition de Quine à propos du problème de la traduction. Et ceci a conduit l'anthropologie anglo-saxonne à radicaliser quelquefois sur la base d'une impossibilité entre description et explication à l'idée qu'il n'y a que des interprétations et que ces interprétations sont toujours culturelles. C'est le point de vue décrit par Goertz, mais qui ne correspond pas sans doute à la ligne majeure que je défends pour ma part, présente dans cette tradition anglo-saxonne. Il existe également une autre critique, qui est la critique de la distinction entre explication et évaluation, puisque, et je ne développerai pas ici les arguments qui sont mobilisés, il apparaîtra que les évaluations, les explications correspondent à des jugements de valeur sur les phénomènes qui sont pris en considération. Enfin, la distinction centrale entre fait et valeur a fait l'objet d'une critique radicale, également dans cette tradition anglo-saxonne, et en particulier dans le courant pragmatiste, qui est sans doute l'apport le plus spécifique à cette tradition anglo-saxonne, ou en tout cas américaine, notamment dans les travaux de Hilary Putnam sur « The Collapse of the Fact-Value Dichotomy », l'idée qu'en réalité, nous n'avons pas les moyens conceptuels d'établir une véritable distinction entre faits et valeurs, d'une part parce que toute description de faits renvoie à des normes, et parce que la science elle-même repose sur un certain nombre de normes. Néanmoins, pour ma part, et je ne développerai pas, puisque je n'appartiens pas à la tradition anglo-saxonne, mes propres arguments, je maintiens cette distinction entre description, explication et engagement normatif, et je maintiendrai la distinction également entre faits et valeurs, même si celle-ci, comme je viens de le rappeler, est contestée dans le cadre de cet argument. Il faut intégrer d'autres arguments présents dans cette tradition, la notion de « fake concept », les concepts qui sont à la fois descriptifs et évaluatifs, comme « il est intelligent », qui correspond nécessairement à quelque chose qui est à la fois descriptif et évaluatif, et donc la construction évolutive des normes de l'analyse scientifique. Si l'on maintient donc une distinction entre ces trois types d'opérations, description, explication et évaluation. Quel est l'apport central des écrivains de langue anglaise sur, disons, les deux siècles ou les deux siècles et demi où ils ont développé ce programme dont j'ai dit néanmoins qu'il n'avait pas fondamentalement d'unité, si ce n'est d'un point de vue normatif. Premièrement, à l'analyse des données qu'on appelle, à la suite d'ailleurs d'usages anglo-saxons, qualitatifs désormais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas quantitatifs, c'est l'anthropologie britannique, par la voix d'un Polonais, qui a introduit les études de terrain, désormais aujourd'hui si prépondérantes dans les sciences sociales mondiales. Il est intéressant de remarquer que aucun des pères fondateurs de l'analyse sociologique européenne, Weber, Durkheim, Pareto, etc., ne fait référence à la notion d'étude de terrain qui est devenue centrale dans ces disciplines. Et cette étude de terrain a été introduite et formalisée par l'anthropologie britannique et en particulier par Malinowski, qui était polonais, mais dans des textes qu'il a écrits en anglais à propos de son enquête sur les îles Trobriand. Et en fait, ce sont les problèmes posés par l'étude de terrain qui ont conduit une grande part de l'anthropologie britannique à devenir, et puis américaine d'ailleurs, à devenir culturaliste. C'est-à-dire à considérer que l'apport de l'anthropologie révèle une incommensurabilité des cultures et des normes sociales constitutives de ces cultures, à partir notamment de la problématique de l'interprétation de ces cultures et de la traduction d'une culture dans une autre, problème théorisé par Quine, mais qui évidemment peut être dépassé, et je crois qu'ici les positions culturalistes sont tout à fait excessives. D'un point de vue quantitatif, en revanche, c'est plutôt la tradition française qui a essayer de mettre en évidence l'importance de l'analyse de données quantitatives, avec en particulier les grands noms de Quetelet et de Durkheim. C'est la sociologie française qui a conçu le projet d'une analyse du phénomène social à partir de corrélations statistiques interprétées par Durkheim, enfin, ou plutôt décrites par Durkheim en termes de variations concomitantes. Néanmoins, c'est aux États-Unis, et en particulier grâce à Lazarsfeld, un autre Autrichien, que ce type de dispositif va connaître tout son essor, en sorte que désormais, après ses débuts français, il y a un appareil mondial de statistiques qui se fait en anglais désormais pour décrire toutes les situations interprétable en termes de corrélation statistique. Néanmoins, la description, qu'elle soit quantitative ou qualitative, n'est pas une explication. Et de ce point de vue, je suis pour ma part entièrement fidèle à la leçon de Karl Hempel, encore une fois, leçon exprimée en anglais. Karl Hempel avait défini l'idée que pour parvenir à une explication, il fallait se référer à des lois. Et que sans loi, on n'avait pas d'explication pertinente et satisfaisante. Et de ce point de vue, il indiquait une continuité entre les mécanismes explicatifs des sciences de la nature et les mécanismes explicatifs de l'analyse économique. Pour décrire, par exemple, un krach boursier dans une bourse, il faut se référer, d'une part, à des dispositions psychologiques des acteurs, d'autre part, à un environnement institutionnel. Et c'est sur la base de cette combinaison de deux références nomologiques que l'on permet d'expliquer le résultat analysé. À vrai dire, les quatre positions possibles à ce sujet sont présentes dans la tradition anglo-saxonne. La première, c'est l'idée qu'il y a des lois au niveau macrosocial. C'est une idée qui avait été développée initialement par Auguste Comte en France, n'est-ce pas, et qui a été critiquée, et je vais y revenir dans un moment, par John Stuart Mill au milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on trouve des auteurs qui défendent l'idée de loi générale du social qui permettent l'explication dans la philosophie américaine des sciences sociales. Je pense en particulier à un auteur qui s'appelle Harold Kincaid. Cette critique de l'existence de lois macrosociales a été engagé par John Stuart Mill, d'abord, au milieu du 19e siècle, et peut-être de manière plus célèbre, en anglais, par un auteur autrichien, Karl Popper, qui critiquait la possibilité de se référer à de telles lois générales de la réalité sociale. C'est donc John Stuart Mill qui a développé, John Stuart Mill, grand épistémologue de l'économie, fils lui-même d'épistémologue de l'économie, le plus grand économiste de son temps, vraisemblablement, et par ailleurs administrateur de la Compagnie des Indes, qui a mis en avant le modèle de base d'une analyse scientifique sociale, qui est de référer les phénomènes macrosociaux à des comportements individuels, ces comportements individuels étant déterminés par des régularités causales à caractère psychologique. Et ces régularités causales à caractère psychologique sont néanmoins pour lui variables potentiellement en fonction des situations sociales, des situations culturelles. Et il a en particulier développé la notion d'éthologie dans un sens différent de celui qui est associé à ce terme aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il s'agit de l'étude des animaux. L'éthologie consistait à décrire la manière dont les comportements psychologiques peuvent être, dans leur régularité même, variable en fonction des situations sociales. Il avait une réflexion en particulier sur la manière dont les comportements économiques adviennent dans un certain type de situation, mais peuvent être modifiés et changés si les situations elles-mêmes changent. Et évidemment, la troisième position est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de loi. Alors, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a donc pas d'explication qui se réfère à des lois. C'est une position qui a été popularisée essentiellement en Europe et en langue allemande par Diltay. Néanmoins, elle est présente dans la tradition des sciences morales et politiques britanniques, notamment dans le cadre que j'ai évoqué précédemment de l'anthropologie culturaliste, qui va considérer que c'est une illusion parfaite d'assimiler la connaissance que nous avons des sociétés sans écriture à une connaissance nomologique déductive du type de celle que l'on a dans le rapport à la nature. Alors j'ai dit qu'il y avait quatre grands thèmes, donc premier, loi macrosociale, deuxième, articulation des lois micro au niveau macrosocial, troisièmement, absence de loi, n'est-ce pas? Alors évidemment, ces trois positions entretiennent des rapports tordus les unes avec les autres. Et la quatrième position est sans doute la plus intéressante aujourd'hui, et c'est celle qui est la plus analysée dans la réflexion contemporaine sur les sciences sociales, c'est l'idée de se référer à des mécanismes explicatifs. Mécanismes explicatifs qui soient dans la continuité des sciences de la nature, puisqu'il existe des mécanismes explicatifs en physique, en biologie, et qui soient les mécanismes qui permettent de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes sociaux, les plus célèbres étant un que j'ai déjà évoqué, le Matthew Effect, c'est-à-dire le fait qu'un avantage à un certain moment génère des avantages supplémentaires au moment suivant. Un autre mécanisme très célèbre, d'ailleurs théorisé par le même Merton, c'est la prophétie autoréalisatrice dont nous avons vu à propos des événements de Grèce il y a quelque temps combien il s'agissait d'un mécanisme social important. Alors la question ensuite est de savoir si les mécanismes présupposent ou non des lois causales. Il y a un débat à ce sujet, débat que j'ai moi-même exploré dans mon ouvrage Social Mechanism and Analytical Sociology, paru à Cambridge University Press. Alors, le plus difficile, finalement, ce sont les évaluations elles-mêmes. Est-ce que les sciences morales et politiques ont la capacité de procéder à des évaluations de la réalité sociale? Il me semble que la position positiviste, à cet égard, est une position d'origine européenne et non anglo-saxonne, essentiellement, avec en particulier de ce point de vue les apports essentiels de Pareto et de Max Weber, même si Max Weber peut être considéré comme non-positiviste, mais avec quand même cette idée qui sera centrale dans l'analyse économique, que, eh bien, au nom de la distinction entre fait et valeur, le scientifique ne peut pas énoncer des jugements de valeur sur la réalité sociale, la notion d'optimum de Pareto n'étant pas une notion normative, ou du moins étant une notion normative d'un type si particulier qu'il ne s'agit pas d'une possibilité de évaluation réelle de différentes situations. Je pourrais revenir sur ce point si on m'interroge. Le culturalisme très important dans la tradition anthropologique, et d'ailleurs l'analyse anglo-saxonne contient toutes sortes de choses de ce point de vue, des études postcoloniales, des études féministes, n'est-ce pas, il y a une grande diversité d'apports. Le culturalisme, lui aussi, renvoie finalement à une impossibilité pour les sciences morales et politiques d'avoir de positions évaluatives. Il me semble néanmoins qu'il y a quatre grandes traditions qui maintiennent, alors à l'intérieur de cette tradition, mais au-delà de cette tradition, puisque ce sont des éléments qui peuvent être généralisé, il existe quatre grandes traditions qui permettent de maintenir la possibilité d'une évaluation scientifique des normes et des valeurs. La première, qui connaît un grand développement, même si c'est David Hume, il y a plus de 200 ans, qui en avait posé les fondements théoriques, aujourd'hui, c'est une position naturaliste. C'est une position naturaliste qui va considérer que il y a une nature humaine qui est responsable de jugements moraux et que ces jugements moraux s'expriment de manière relativement stable par-delà la diversité des situations sociales. Le maire est que souvent, ces jugements s'expriment de manière non réfléchie et de manière non intentionnelle, voire même de manière inconsciente. Le meilleur candidat à l'exemplification de ce type de démarche est par exemple le tabou de l'inceste, n'est-ce pas ? Le tabou de l'inceste qui peut être expliqué de manière assez simple par un mécanisme évolutif de type darwinien. Toute la question aujourd'hui est de savoir si les travaux de psychologie qui sont devenus prépondérants en analyse économique, qui commencent à être très présents en sociologie, mais aujourd'hui, par exemple, les écoles d'économie les plus célèbres en France, qui s'expriment en anglais, font appel essentiellement à des expériences de psychologie cognitive, qui sont d'inspiration américaine, eh bien, toute la question est de savoir si ces travaux de psychologie révèlent une véritable psychologie et ses lois même, ou si c'est en fait la description de caractère psychologique, de caractère culturel particulier, puisqu'il est bien établi que 95% des études de psychologie faites sont faites sur des étudiants américains disons, des 30 dernières années, qui ne sont pas la population la plus représentative de l'espèce humaine du point de vue de ses origines. Le deuxième type de démarche, je crois qu'il me reste 5 minutes, le deuxième type de démarche, c'est l'insistance sur des mécanismes sélectifs de type darwinien ou similaire. Spencer, en Angleterre au 19e siècle, avait indiqué l'importance que les mécanismes de sélection institutionnelle distinguer entre des normes durables et des normes non durables, en sorte que on ait des mécanismes de sélection qui permettent de faire la distinction entre des normes des institutions qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas. On retrouve des arguments similaires chez un auteur comme Hayek. La troisième dimension prépondérante dans les sciences sociales contemporaines, c'est une d'inspiration économique. C'est une analyse des choix normatifs et des évaluations normatives à partir d'un modèle du comportement économique, référé au modèle classique de l'homo economicus, qui lui-même tend à être interprété quelquefois sur des bases naturalistes à partir de la notion de selfish genes développée par Richard Dawkins. Le problème général, si vous voulez, de cette démarche est que tout modèle normatif qui s'appuie sur des comportements économiques uniquement dictés par l'intérêt conduisent en principe à des comportements opportunistes lorsque cela est possible et ne rendent pas compte véritablement d'un réel engagement normatif. C'est pourquoi, et de manière classique, et en me référant à votre introduction, et en me référant d'ailleurs à l'apport de mon maître et mon boudon, qui faisait partie de votre académie et qui, hélas, ne fait plus partie, qui d'ailleurs ne faisait pas partie d'une tradition anglo-saxonne à proprement parler, mais qui a été sans doute l'un des deux ou trois sociologues français les plus présents dans la tradition anglo-saxonne, mais qui peut dépasser largement la tradition anglo-saxonne, puisque certains membres de cette académie peuvent illustrer cette tradition. En effet, il faut se référer in fine pour parvenir à des mécanismes explicatifs à la fois de l'émergence des normes, mais aussi de l'adoption de ces normes et de leur défense par les acteurs sociaux, à une notion de raison qui peut être compatible avec des mécanismes de sélection naturelle ou de sélection institutionnelle et qui néanmoins permet de développer une sorte de point d'ancrage interprétatif de l'ensemble des phénomènes moraux et sociaux. Mais ce programme, n'est-ce pas, vaste, évidemment, je ne le décrirai pas ici devant vous puisque j'ai terminé mon temps. Je vous remercie.